Bonjour à tous, bonjour à tous, Shavua Tov, les Koulam, Shavua Tov Mborach, et on est reparti donc pour dans ce nouvel épisode de l'histoire. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode de l'histoire, je vais enlever mon masque, hein, ça sert à rien ici, de cette histoire du Beit Sheni, l'histoire du Second Temple. Alors c'est parti, histoire du Second Temple, chapitre 5. Chapitre 5. Alors, nous avons terminé la semaine dernière, nous étions arrivés à l'entrée de Rome en Israël, et pas seulement l'entrée de Rome, mais effectivement le début de l'influence romaine en Israël. La logique aurait été que là maintenant on continue notre tout simplement résumé historique pour arriver jusqu'à la Grande Révolte. Mais ce n'est pas ce que nous allons évoquer aujourd'hui. La Grande Révolte à Mered Agadol, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Car aujourd'hui, nous devons nous faire un petit arrêt sur image et un petit focus pour comprendre cette histoire du Second Temple. Eh bien, un petit focus historique sur le pluralisme juif de cette époque. Qu'est-ce que ça veut dire le pluralisme juif? Eh bien, il faut être conscient d'une chose. Qui est le peuple juif à ce moment-là? Et je dis bien à ce moment-là parce que finalement, avant cela, eh bien, il n'y a pas vraiment, j'ai envie de dire, plusieurs options pour être juif. Et oui, comprenez-moi bien, les amis. Avant cela, je parle avant, on va être très simple, avant l'entrée des Grecs, eh bien, tout le monde est juif. Je m'explique. Avant l'entrée de la culture grecque et de l'hellénisation de la société, eh bien, tous les membres du peuple juif sont à fond dans leur identité d'Israël. Ça veut dire quoi? Ben, ils n'ont pas vraiment le choix. Ils font partie du peuple juif, du peuple d'Israël, qu'ils soient en Israël à l'époque biblique, c'est-à-dire à l'époque où il y a la royauté d'Israël, ou également lorsqu'ils sont emmenés en exil à Babylone ou en Perse, eh bien, ils sont de toute façon pas considérés comme des Babyloniens ou comme des Perses, ils sont les membres du peuple d'Israël. Certains sont idolâtres, d'autres ne le sont pas, mais si vous voulez, dans tous les cas, il n'y a qu'une seule appartenance pour un juif. Il est membre du peuple d'Israël. À l'époque grecque, eh bien, on va rentrer une nouvelle donnée. L'assimilation culturelle. Je peux devenir grec. Je peux devenir hellénisé. Et donc, on va voir, évidemment, et c'est ce qu'on a vu pendant notre épisode sur Hanouka, eh bien, on peut très bien voir des gens qui vont être complètement hellénisés à la forme grecque, à la mode grecque, et qui sont complètement, je ne vais pas dire converti, mais complètement sorti. Voilà, voilà, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Voilà. Il ne s'agit plus de décider est-ce que je reste dans le peuple juif ou, eh bien, je viens, j'abandonne l'identité d'Israël et je vais dans la culture grecque. Sous la domination romaine, eh bien, c'est une autre histoire. Et oui, car les Romains, eh bien, les Romains n'ont pas du tout prévu de faire de toi des Romains. Car les Romains ne sont pas du tout comme les hellénisants grecs en disant qu'il faut dévoiler à tout le monde qu'ils sont grecs. Absolument pas. Pour les Romains, il y a une très nette différence entre le Romain et le pas Romain. Je vais te dire mieux que ça. Au sein même de Rome, il y a des différences très claires entre ceux qui sont des patriciens, ceux qui sont plus élevés dans la société. C'est-à-dire que la société romaine n'accepte pas l'étranger comme étant l'alter ego. Donc, si vous voulez, le juif sous la domination romaine n'a aucune chance de devenir romain. Par contre, à ce moment-là, au moment, même si ça a commencé avant, que ce soit bien clair, ça a commencé avant, mais c'est sous l'époque romaine que le peuple juif va commencer à voir apparaître différentes façons d'être juif. Et donc, c'est ce qu'il va falloir essayer de comprendre ici. Quelles sont les différentes sections, factions du peuple d'Israël sous la domination, eh bien, romaine? Tout d'abord, il faut comprendre que le judaïsme, tel qu'il est présenté dans cette époque-là, alors je ne vais pas vous faire un cours de ce que c'est le judaïsme, on est dans un cours d'histoire, pas dans un cours de Torah, mais de manière générale, quelle est la couleur du peuple juif sous l'époque romaine? Eh bien, on peut mettre en place quatre dimensions qui sont les dimensions phares du peuple juif à cette époque-là. Tout d'abord, et c'est ce qu'on va voir, il y a un pluralisme religieux assez important. Deuxièmement, eh bien, il y a une spécificité pendant toute la période du Second Temple qui est mise sur le sujet de la pureté. Et ça, c'est Me'od Me'anien, c'est très intéressant quand on regarde et qu'on compare un petit peu les civilisations. Eh bien, on peut voir que la notion de pureté est une notion fondamentale à ce moment-là, pas seulement chez les Juifs, chez les Grecs, chez les Romains également. Donc la notion de Tahara va être mise en avant. Il y a un messianisme qui va commencer à apparaître officiellement dans la littérature rabbinique et la notion de Kiddush Hashem qu'on va pouvoir retrouver pour la première fois, alors plus à l'époque de la Grande Révolte. Mais ce sont les quatre éléments, on va dire, qui sont les couleurs du peuple juif à ce moment-là. Alors, Besseder Gamon, tout va bien. Une nouvelle institution se met en place également vers la fin du Second Temple. C'est ce qu'on appelle l'institution que vous connaissez sous le nom de synagogue, Bet Knesset. La synagogue commence à voir le jour. Les premières synagogues fonctionnent avant la destruction du Beth Amikdash. Donc, on parle d'une époque où il y a le Beth Amikdash. On va y faire les korbanot, on va y faire... Et il y a une synagogue, une Beth Knesset. La Beth Knesset, ce n'est pas encore une Beth Tefila. Ce n'est pas l'endroit où on va prier. C'est l'endroit, comme son nom l'indique, de kinous, de rassemblement de la société, de la communauté, et c'est là qu'on va y étudier la Torah. On peut retrouver des synagogues donc pré-destruction du deuxième temple, donc c'est-à-dire contemporaine du Beth Amikdash. On va en retrouver à Gamla, on va en retrouver à Masada, Hérodion, Kiryat Sefer, Yericho, Migdal. Ce sont les plus vieilles synagogues du monde. Alors voilà, maintenant qu'on a mis cela en place, eh bien on peut commencer à bel et bien comprendre quelles sont les différentes factions du peuple juif à ce moment-là. Alors là, les amis, allons-y. La première faction à mettre en avant, c'est ce qu'on appelle les Baïtoussim ou les Tsedoukim. En français, les Sadducéens. Alors, qui sont les Sadducéens? Alors, tout d'abord, avant de dire qui ils sont, quelle est leur idéologie? Eh bien, les Sadducéens, les Tsedoukim, eux ont décidé de rejeter Torah chez Béalpé. Ils rejettent la Torah orale. Ils ne se focalisent que sur la Torah écrite. Ils ne croient pas en la résurrection des morts. Et ils sont, par contre, très, très important. Pour eux, c'est très important le libre arbitre. Le libre arbitre est une notion fondamentale chez eux. Et on peut dire que ce sont des gens qui vont, de manière très générale, être finalement très complaisants avec l'envahisseur romain. Pour la plus grande majorité d'entre eux, on va dire qu'à 90%, même si Stam, j'ai pas de chiffres à vous donner, mais de manière très large, les Tsedoukim sont l'aristocratie de Jérusalem. Grande, grande, grande majorité, ce sont des Kohanim, car ça va avec l'aristocratie à l'époque. Ils sont, pour très nombreux d'entre eux, membres de la famille des Hashmonaïm, qui est partie en cacahuète avec le temps, comme on l'avait vu. Et donc, ce sont des gens qui, finalement, vont assez bien s'entendre avec les Romains, assez bien accepter leur domination, puisque la seule chose qui est importante pour eux, en tant que Kohanim aristocrate, c'est d'avoir une belle vie et de servir au Beth Amikdash. C'est tout ce qui les intéresse, le Avodat Amikdash, le service au temple, et finalement, une vie d'opulence. Ils vont évidemment, très rapidement, se romaniser, alors, pas devenir romain, hein, mais se romaniser dans leurs coutumes, dans leurs agissements, l'habillement, les termes, et ce que tu veux. Et donc, on peut voir ici des gens qui sont l'aristocratie juive, assez donc à la solde de Rome. Alors, d'où viennent-ils ces Tsedoukim? J'ai dit tout à l'heure Tsedoukim, Baïtoussim. En fait, le texte, on a très peu de textes qui nous parlent de leurs origines. Tu as vu Joseph en parle un petit peu également dans la guerre des Juifs contre les Romains, dans les Antiquités des Juifs. Mais nous pouvons en avoir également des sources dans le Talmud. Dans le Talmud, dans les textes talmudiques et de cette époque-là, par exemple, dans la Avot de Rabbi Nathan, eh bien, on va nous expliquer comment ils sont venus au monde, ces Tsedoukim Baïtoussim. En vérité, il y avait un homme qui s'appelait Antigonos Ish Socho, c'est plus minus, plus ou moins, après la traduction de la Torah en grec. Eh bien, Antigonos Ish Socho va nous dire dans la Mishnah de Pirkei Avot, Al tiyu ka'avadim ha-meshamshim et harav al menat lekabel pras, Ela yu ka'avadim ha-meshamshim et harav shelo al menat lekabel pras, ve'imor ha-shamayim alechem. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire, nous dit Antigonos, ne soyez pas comme ces gens qui servent leur maître pour recevoir un prix, mais soyez ceux qui servent leur maître sans vouloir recevoir de prix. Mais, sauf qu'en disant cela, Antigonos Issoro ouvre la porte pour la première fois à un prix, c'est-à-dire, en français, à une récompense au Olam Haba. Eh oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que pour ce qui est des Tzedukim, Baitusim, il n'y a pas de croyance dans le Olam Haba. Eh oui, il n'y croit pas, il n'y a que Olam Hazé. Parce que, en fait, lorsque Antigonos Issoro nous dit cela, en fait, il nous dévoile qu'il y a la notion de Olam Haba. Seulement, personne ne l'avait dévoilé avant lui. Est-ce que ça veut dire que les rabbins ne le savaient pas avant, que les chachamim ne le savaient pas avant? Bien sûr qu'ils le savaient. Ça n'a pas été inventé. Les midrashim sont nombreux sur lesquels Moshe Rabbeinu fait des allusions au Olam Haba. Donc c'est tout le monde, on le sait depuis toujours. Mais ça n'a jamais été enseigné en public. En d'autres termes, c'était quelque chose qui était gardé, si vous voulez, de bouche de druide à oreille de druide. Et là, pour la première fois, Antigonos va en parler. Alors la raison est très simple. Parce que nous sommes justement dans l'époque où l'exil se fait de plus en plus pesant. Et donc, à ce moment-là, eh bien, vu que Olam Hazé, il est pourri, eh bien, on se rattrache pour la première fois à Olam Haba. Ça va être évidemment mis de manière beaucoup plus claire dans la Mishnah, lorsque Rabbi Yehuda Hanassi nous dira « Kol Yisrael Eshtem Chelek le Olam Haba ». Mais ça, ce sera évident, tellement évident parce qu'il parle après la destruction du Beth Amikdash. Donc, si tu veux, on est vraiment en plein dans l'exil et le monde de ce monde-ci est vraiment impossible à vivre. Donc, tout ça pour dire, les amis, que ben, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien, cet Antigonos Issoro avait deux élèves. L'un s'appelait Tzadok, l'autre s'appelait Baitos. Bon, il y en avait évidemment d'autres. Hein, ces deux élèves qui vont lui succéder, c'est Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yohanan, qui vont devenir les premiers Zougot, ceux qui vont transmettre la Torah, les rabbins de Hanouka. Mais il avait deux autres élèves qui s'appelaient un Tzadok et l'autre Baitos, qui étaient Kohanim, et ils n'ont absolument pas accepté l'enseignement de leur maître. Parce qu'ils ont dit, mais c'est quoi cette nouveauté que tu nous dis qu'il y a un Olam Haba? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi. C'est ça le rapport que tu as avec Dieu? Un rapport intéressé de Olam Haba, ma pitam? Et ils ont rejeté en bloc l'enseignement de leur maître et ont créé leur nouvelle, façon de penser. L'un va créer le mouvement Baitusi, il se revendique de Baitos, et l'autre va créer le mouvement Tzedouki de Tzadok. Il semble assez accepté dans le Talmud que, en fait, c'est les mêmes. C'est-à-dire, c'est juste qu'il y en a un qui avait pour père spirituel Baitos et Tzadok, mais en fait, c'est lui qui frit bourrico. Donc voilà d'où viennent ce sera les Tzedoukim. Alors, les Tzedoukim, vu que toute leur vitalité se réunit autour du Beth Amikdash, vous comprenez bien que lorsque le Beth Amikdash est détruit, eh bien, ils disparaissent. Tout simplement. Ils disparaissent tout simplement parce qu'ils n'ont plus de raison d'être. Il n'y a plus d'aristocratie de Kohanim, il n'y a plus de Beth Amikdash, donc les deux éléments fondamentaux de l'idéologie Tzedouki n'existant plus, eh bien, les Tzedoukim disparaissent tout simplement. Alors, je dis cela, mais aujourd'hui, il y a une communauté qui se revendique des Tzedoukim. Il s'agit de la communauté des Karaïm, la communauté des Karaïtes, de ces gens qui ont rejeté la loi orale, qui ne se conforment qu'à la loi écrite. Eh bien, si vous allez sur le site officiel des Karaïm, eh bien, ils vont vous dire qu'ils sont les descendants directs des Tzedoukim. Ce qui est assez problématique au niveau historique, puisque il semble assez évident que, en fait, les Karaïm sont nés au Xe siècle avec Anan ben David. C'est pas parce que le bonhomme a repris exactement les tracés de ce que les Tzedoukim avaient mis en place. Il y a quand même près de 800 ans entre les derniers Tzedoukim appelés comme tels et l'arrivée de Anan ben David et les Karaïm. Donc, pour ce qui est du suivi chronologique, ça paraît compliqué. Alors, il n'est pas impossible qu'ils aient décidé tout simplement de reprendre l'idéologie tzedoukite et de la remettre au vu du jour. Donc voilà, ça c'est la première grande faction. Il y a une deuxième grande faction qui s'appelle les Pourushim. Les pharisiens, they are good guys, c'est les mecs bien, c'est nous. C'est-à-dire c'est quoi? Ce sont de manière générale les rabbins et la majorité du peuple qui va suivre donc le Sanhedrin et les rabbins. Alors, c'est qui ces gens-là? Comme vous le savez, ma'aminim be'torah she'bitar, torah she'be'alpe, on croit et à la Torah écrite, et à la Torah orale. Ce sont une faction qui croit également, évidemment, à la Triat HaMetim, Charut HaNefesh, Olam Haba. Donc ça, c'est une évidence. Ils sont très hostiles à la dimension et à la domination romaine. Mais que faire? C'est-à-dire qu'ils sont hostiles, mais en même temps, ils vont pas se bouger pour faire quoi que ce soit. D'un autre côté, ils sont beaucoup plus critiques face à la maison de Beit Hashmonaï. Et pour eux, l'essentiel de la vie de l'époque se tourne autour de l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, Gmilut Hasadim. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va appeler le judaïsme rabbinique de l'époque. Ils représentent la majorité du peuple, parce que bien que la majorité n'ait pas forcément un avis, eh bien, ils suivent quand même l'autorité rabbinique. Ce sont donc les Pourushim, les pharisiens. Le mot Pourushim vient du terme lifrosh, s'écarter. S'écarter de quoi? Eh bien, s'écarter de l'avis proposé par les Romains. Voilà, c'est ce qui va faire d'eux des Pourushim. Il y a également une troisième faction. Cette troisième faction, c'était des Pourushim. Cette troisième faction est née de gens qui faisaient partie des Pourushim, que ce soit des simples juifs ou des rabbins. Ils étaient pharisiens, mais à un moment donné, la pression romaine grandissante, ils en ont eu marre et ils ont dit « ça suffit, on ne peut plus continuer comme ça ». Et donc, on va décider que notre aversion de l'Empire romain ne va plus se limiter simplement, ne va plus se limiter simplement par une opposition d'idées, mais nous devons également nous opposer à eux au niveau concret. Au niveau concret, Rabotai. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau concret? Deux petites secondes. Voilà. Hop là. Ça va. Il va falloir s'opposer à eux de manière concrète aux Romains. Oui. Y a-t-il une différence entre les Pourushim et le judaïsme rabbinique? Non. Les Pourushim, c'est le judaïsme rabbinique. Voilà, je pense que c'est assez évident. Voilà, alors, évidemment, aujourd'hui, enfin, au 21e siècle, ça a un tout petit peu évolué, bien sûr, mais si tu veux, tous les rabbins de toutes les générations se revendiquent des Pourushim. Ok? Et là, pour le coup, il y a le suivi historique. Eh oui, puisque des Pourushim, nous avons des noms très clairs des dirigeants du Sanhédrin de l'époque, et il suffit tout simplement de suivre de rabbin en élève et on peut arriver jusqu'au rabbin que tu connais aujourd'hui. Donc, eh bien, au niveau des Pourushim, les rabbins d'aujourd'hui sont les descendants directs au niveau idéologique des Pourushim. J'ai dit, donc, cette troisième caste, c'était des Pourushim qui ont décidé à un moment donné qu'il fallait se battre contre les Romains et non plus seulement être contre de loin, il fallait être contre. Et donc, ces gens-là vont s'appeler les Canaïm. Les zélotes, ils décident de se battre et c'est eux qui vont lancer la lutte armée contre les Romains. Alors, parmi les Canaïm, eh bien, nous avons également des noms de personnages, on va dire, qui ne sont pas de rabbiniques, par exemple, Yohanan Migush Halav, Bar Giora, ce sont des gens qui ne sont pas des rabbins, mais il y a également des personnages rabbiniques qui vont décider de devenir des Canaïm et de se battre également, lutte armée, contre les Romains. On pourra noter également, particulièrement, Rabban Shimon ben Gamliel, Nassi Sanhedrin, qui devient un des Canaïm également. Voilà, et qui sera tué pendant la grande révolte contre les Romains. Donc, ce sont les Canaïm. Au sein des Canaïm, eh bien, il y a une faction encore plus, on va dire, violente, puisque cette faction-là, non contents d'être contre les Romains, ils se disent que s'il y a des Juifs qui participent, qui sont potes avec les Romains, eh bien, ils ne sont pas à l'abri de se faire exécuter également. Et ces gens-là s'appellent les Sicarim. Les Sicarim, du nom de leur dague, le Sicaire, c'était une dague arrondie comme ça qui permettait d'égorger, d'éventrer son ennemi de manière assez violente. Donc voilà, donc on a les Tzdoukim, les Pourushim et les Canaïm, Rabotai. Mais il y a une quatrième faction qui a été mise en surveillance, en relief, tant par les écrits de Flavius Joseph, mais également par l'archéologie. Par l'archéologie, tout simplement. Si les Pourushim, j'ai dit, on n'a pas vraiment de problème de continuité, on sait exactement qui ils sont, ce sont les Chachmei HaMishnah, ce sont tous ces gens-là qu'on va trouver à cette époque-là, Les Tzdoukim, j'ai dit, c'est pas très clair. On n'a pas vraiment décrit sur eux un petit peu le Fabius Joseph, mais c'est pas grand chose. Les Issim, eh bien, eux, on va avoir on va en parler dans Fabius Joseph, mais on va les retrouver également au niveau archéologique. Alors, qui sont ces Issim? Pour Flavius Joseph, il s'agit d'un groupe de Juifs qui, en ayant marre, après en avoir eu marre de la corruption à Jérusalem et de la solde de Rome, parce qu'ils n'aiment pas les Romains non plus, eh bien, ils décident de partir vivre sur les bords de la mer Morte. Voilà, tu as raison, Dan, en français, on appelle ça les Esséniens. Les Esséniens. Mais alors, attention, de qui s'agit-il? Eh bien, c'est pas très clair. C'est pas très clair, car aujourd'hui, lorsqu'on veut parler des gens qui habitaient sur le bord de la mer Morte, eh bien, on va parler de la secte du désert de Judée, Kat Midbar Yehuda. Est-ce qu'il s'agit des mêmes personnages? Semble-t-il que oui. Mais alors, qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Eh bien, les Issim Ma'aminim, ils ont foi dans Isha'arut HaNefesh, dans le fait que l'âme reste et reviendra dans un temps meilleur, mais attention à la différence des Prouchim, cette âme ne pourra survivre et reviendra que si tu fais partie des Esséniens. Ah bah oui, si tu fais pas partie de leur groupe, c'est mort. Alors, pour eux, Torah, Nevim, Ktuvim ont été écrits uniquement pour le groupe des Esséniens. Alors, c'est une petite ambiance, hein, les Esséniens, comment te dire, ils vivent que entre hommes. Ils vivent que entre hommes. Ils font venir des femmes une fois par mois pour passer une soirée sympathique, hein, je pense que vous aurez compris. Ils vivent Betzniout, les biens de la communauté appartiennent à tout le monde, et ils s'occupent toute la journée d'écrire. Mais quoi? Qu'est-ce qu'ils écrivent? Eh bien, les Esséniens vont écrire plusieurs sortes d'écrits. Je m'explique. Ils vont tout d'abord, écrire le Tanakh. Et donc, on va retrouver dans les rouleaux de la mer morte énormément d'écrits du Tanakh. Tout le Tanakh, à l'exception de Megillat Esther. Ce qui est assez logique, puisque Megillat Esther n'a été rentré dans le canon biblique que plus tard. Donc, le Tanakh. Ils écrivent également des Sfarim agnostiques, des livres sur, on va dire, des livres d'espoir, d'espérance dans leur idéologie. Ils vont écrire également tous les livres qui sont en rapport avec leur communauté, qui s'appelle la Yahad. Et les lois du Yahad vont être écrites, des Takanot vont être écrites. Ils vont écrire également un livre qui s'appelle « Le combat des fils de la lumière contre les fils des ténèbres ». Oui, non, parce qu'ils ont parti un petit peu en cacahuète. À un moment donné, ils sont quand même arrivés complètement à une idolâtrie, dans la mesure où ils se sont dit qu'en vrai, il y avait deux dieux, un bon et un mauvais, le dieu de la lumière et le dieu des ténèbres, que pour l'instant, celui qui régnait à Jérusalem, c'était le dieu des ténèbres, mais que viendra un jour, ne vous en faites pas, le dieu de la lumière reviendra et va faire la guerre, et va exploser les ténèbres, mais seuls ceux qui seront purs et membres de la communauté de la lumière, eh bien, survivront. Ouais, on est bien là, on est bien, on est très très bien. Donc voilà, maintenant, comment est-ce qu'on a pu retrouver tous leurs écrits? Eh bien, c'est très simple. L'histoire, vous la connaissez. L'histoire, c'est un bédouin en 1947, eh bien, qui se balade, qui fait paître son troupeau dans un endroit qui s'appelle... Ah, vous le connaissez, l'endroit? Non, vous ne connaissez pas l'endroit? Non? Vous savez pas comment ça s'appelle? Khirbet Qumran. À Khirbet Qumran, à Qumran. Et là-bas, il y a plein de grottes. Il fait paître ses troupeaux, à un moment donné, il lance un caillou dans une des grottes. Et au lieu d'entendre le caillou tomber au sol et faire un bruit de caillou sur le sol, eh bien, il entend un boum. Enfin, pas une explosion, hein, mais quelque chose s'est brisé. Il grimpe dans la grotte et il voit qu'il vient de briser une jarre en argile et il y a trouvé dedans, eh bien, un parchemin. Il comprend pas trop ce que c'est, mais il voit que c'est marqué en hébreu. Résultat des courses, il va essayer de le refourguer à un antiquaire de son village pas loin qu'il connaît, enfin de son village, un antiquaire de Jéricho. Et cet antiquaire, lui, il comprend qu'il vient de tomber sur quelque chose d'énorme et il va réussir à le faire transvaser et le vendre à un juif qui finalement va là, et finalement ça va arriver sur le bureau d'Yael Yadin, qui va être le premier Ramatkal, chef d'état-major d'Israël, mais qui était également archéologue et féru complètement de ce genre de choses. Et donc Yael Yadin va tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit des écrits de la mer morte. Et donc à partir de là commence une véritable transaction énorme. Yael Yadin essaye de s'approprier le plus de rouleau possible, parce qu'on va très vite aller envoyer des gens là-bas, et en fait, d'abord, ce sera les Bédouins sur place qui vont comprendre qu'il y a un filon, et on va trouver énormément, énormément, énormément de choses et de textes qui vont être vendus. Certains vont être récupérés, d'autres vont être perdus, d'autres vont être vendus au marché noir à d'autres personnes. Et résultat des courses, eh bien, finalement, on va retrouver plus de 900 livres qui ont été écrits et disposés dans ces différentes jarres, et qui sont les Megillot de Yam HaMelach, les écrits, les rouleaux de la mer Morte, et qui ont une importance capitale pour nous. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on parle de continuité historique. Quand on reprend, sans parler des écrits de Yahad et tout ça, mais les écrits du Tanakh, eh bien, on les retrouve écrits en hébreu, avec notre alphabet, et qui ont 2000 ans d'histoire, et qui n'ont pas bougé d'un iota comparé à la Torah que nous, on écrit aujourd'hui. Alors, il y a de temps en temps une lettre par-ci qui n'est pas la même. D'ailleurs, il est très possible que ce soit la raison pour laquelle ces rouleaux ont été gnisés, c'est-à-dire mis en terre. Peut-être parce que justement, ils comprenaient des erreurs. Mais il n'empêche que sur le mainstream, on est quand même super, super dans l'exactitude. Et donc, ça nous montre cette continuité historique que la Torah qu'il y avait il y a 2000 ans, eh bien, c'est exactement la même que celle que nous avons aujourd'hui. Et je terminerai simplement pour la petite anecdote qu'il y a parmi les écrits qu'on a retrouvés à Qumran, eh bien, il y a une Megillah qui est différente des autres. Pourquoi différente des autres? Eh bien, parce que elle n'est pas écrite sur un morceau de parchemin, elle est marquée sur un rouleau de cuivre. Megillat Anechoshet. Et lorsqu'on l'a déroulée et qu'on a pu la lire, eh bien, on a vu qu'il s'agissait en fait d'une Megillah toute particulière parce que c'était un inventaire d'un trésor. Il y avait là-bas un inventaire de plein de bijoux, de trésors, machin. Et il y avait aussi ce qui semblait être une carte au trésor. Et les archéologues, évidemment, s'en sont donnés à cœur joie lorsqu'ils l'ont découvert. Et chacun y a été de sa petite explication. Est-ce qu'il s'agit des trésors comme ci, des trésors comme ça? La majorité des archéologues pensent qu'il s'agit d'un inventaire des trésors du deuxième temple. Mais il y a un archéologue qui n'est pas d'accord. Il y a un archéologue qui dit non, il ne s'agit pas des trésors du second temple, mais il s'agit bel et bien du trésor du premier temple. De quoi parle-t-il? Eh bien, il parle de l'arche d'alliance. Aaron Abrit qui aurait été caché, enfin qui a été caché par Yoshiyahu Melech Yehuda en -630 avant que les Babyloniens n'arrivent. Et donc, ben, pour lui, cet archéologue ne se dit, ben, c'est la carte au trésor. Et donc, cet archéologue étant protestant, il a vraiment envie de retrouver Aaron Abrit, bien évidemment. Et il va d'abord être financé par son université des États-Unis. Et après 7 ans de fouilles où il n'aura rien trouvé, eh bien, il ne se décourage pas, il fait des emprunts, il a des donateurs, il prend son argent à lui et il continue les fouilles. Mais au bout de plus de 10 ans où ça ne donne rien, il n'a rien trouvé. À un moment donné, il se dit, bon, bah, tant pis, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé. Et puis, il rentre aux États-Unis. Et lorsqu'il rentre aux États-Unis, eh bien, il y a un homme qui l'approche et qui lui dit, écoutez, j'ai vu tous vos travaux, je suis fan de votre travail, j'ai un travail à vous proposer. Ah bon, c'est quoi? Eh bien, voilà, je me présente, je m'appelle Steven Spielberg. Et voilà, Steven Spielberg, et je travaille sur un projet de film et je voudrais que vous soyez mon conseiller, mon consultant, mon conseiller technique. Dire bon, c'est quoi votre film? Et il va lui raconter le synopsis. Seulement, le héros n'a pas encore de nom. Et donc, ensemble, Steven et l'archéologue vont lui créer un nom. Et vous l'aurez compris, l'archéologue en question s'appelle Whitney Jones. Et ensemble, eh bien, ils vont tout simplement inventer le personnage d'Indiana Jones. Et vont créer le premier film qui s'appelle Les Aventuriers de l'Arche Perdue, où on part sur les traces de Aaron Abrit. Donc après, il y a marloquette entre le Tanakh qui nous dit que Yoshiyahu a caché le Aaron Abrit quelque part dans l'Arabaït, et Indiana Jones qui l'aurait retrouvé et qui serait, d'après Indiana Jones 4, qui serait dans un entrepôt quelque part aux États-Unis. Alors, qui a raison, hein? Ça, c'est une grande question. Voilà, nous avons fait un petit peu le tour des différentes factions juives à l'époque du Second Temple, mais la mainmise romaine étant de plus en plus présente, eh bien, on ne peut plus en rester là. Il va falloir faire une action, et cette action qui va mener à la grande révolte, eh bien, on verra ce que c'est la semaine prochaine. À bientôt!